Let
Monsieur le Président, Madame Chirac Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interroger les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, si les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse fout de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calissi, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans exiger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les demi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse trouve la preuve.
La rage.
Je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
La rage.
Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui aussi c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse trouve la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse trouve la preuve.
La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, je reçois très rapidement Annie Faure, le docteur Annie Faure. Annie, bonjour.
Bonjour.
Alors Annie, avant qu'on ne file sur le Rwanda, qui est la préoccupation du moment et la raison pour laquelle je t'invite, je voudrais qu'on fasse un focus sur la Birmanie, parce que tu as été présidente d'Info Birmanie pendant quelques années. Et je voudrais savoir quelle est ta position par rapport aux événements du coup d'État du 1er février.
Alors ma position, si on peut parler d'une position, déjà c'est très triste, c'est assez désespérant de voir que ce pays qui avait goûté la démocratie, même si imparfaite soit-il, avec le gouvernement dirigé par Aung San Suu Kyi, retombait dans son travers terrifiant qui est la prise de pouvoir par une junte militaire. Alors là, on peut comparer les choses comparables, on peut dire que c'est une répétition, on peut aussi espérer que cette répétition n'en soit pas une, c'est-à-dire que la junte militaire au pouvoir actuellement ne pourra pas aller jusqu'au bout des répressions sanglantes dont elle avait été l'auteur en 88 et en 2003. Ouais. Donc on espère ça. On a que l'espoir pour suivre, parce qu'une junte militaire ne fait que son travail de junte. La junte fait la junte, c'est-à-dire que probablement que les répressions vont s'accentuer. Reste que, du point de vue de la population, on a un mouvement populaire qui ne faiblit pas. On a une prise de conscience de la population birmane du désastre annoncé si la junte revenait au pouvoir, parce que justement, elle a goûté un moment à la démocratie. Donc, on a à la fois l'espoir et le désespoir en même temps. Reste le problème des questions des sanctions internationales. Alors, on est toujours sur l'ambivalence du fait que si les sanctions économiques se portent sur la Birmanie actuellement, comme nous on l'avait demandé quand j'étais présidente d'Info Birmanie pendant quelques années, ça va retomber malheureusement sur la population birmane. Donc, il n'est pas certain que ce soit des sanctions économiques qui soit utile sur cette situation, mais en tous les cas, le soutien, l'information, la divulgation de tout ce qui se passe en Birmanie actuellement, là, c'est un travail de journaliste, c'est un travail d'exposer les faits et de bien déjà dire maintenant que beaucoup d'opposants sont en prison, que le chef du gouvernement est en prison, que Aung San Suu Kyi est encore en prison et qu'on espère que tout sera fait pour qu'elle en sorte et qu'elle puisse être de nouveau présidente. Même si, je ne peux pas évidemment oublier ça, elle avait été contestée un moment sur sa position sur les Rohingyas. Oui. Alors sa position sur les Rohingyas est à la fois inadmissible, insupportable et malheureusement compréhensible. Oui. Alors je pense qu'on ne va pas parler développer. De ça plus avant, développer là-dessus, mais il faut toujours raison garder sur l'analyse de ce qu'a fait Aung San Suu Kyi sur sa position, qui nécessiterait un débat spécifique là-dessus. Mais je pense qu'il faut toujours se garder, nous à distance, dans des pays comme les nôtres, de condamnation sans exactement comprendre ce qui se passe.
D'accord. Alors Annie, revenons au Rwanda, c'est la raison pour laquelle je t'invite. Alors, j'invite les auditeurs à regarder un excellent documentaire qui s'appelle « L'homme du président, l'inconnu de la République ». C'est un portrait de tous les hommes qui sont les plus proches des présidents de la République, à savoir des gens comme Hubert Védrine, des gens comme Alexis Kohler, ce sont les secrétaires généraux de l'Élysée. Et c'est une fonction tellement particulière qu'un documentaire de 1 heure est trop court, mais il est sur France 5, sur le site de France 5. Je vous encourage à la regarder. Annie, avant de venir au fait que Hubert Védrine te fait un procès, je voudrais que tu racontes ce que tu as fait au Rwanda en 1994.
Alors moi, je suis donc médecin. En 1994, je pars avec... Le génocide débute le 7 avril 1994. Le mot génocide à l'époque n'est pas prononcé. Il faudra plusieurs semaines avant qu'on décide d'appeler génocide ce qui est un génocide. En tout cas, à partir d'avril 1994, des massacres commencent après l'attentat contre l'avion d'Abiarimana, dont on sait maintenant qu'il a été perpétré par les extrémistes Hutus, qui trouvaient que leur président était un petit peu mou, pour faire simple, sur la répression contre les Tutsis. Donc, les massacres commencent après l'attentat, avec des chiffres épouvantables, plusieurs milliers de personnes assassinées par jour. Moi, à l'époque, je suis médecin, je pars avec Médecins du Monde. Du côté de la partie qui est libérée par le Front Patriotique Rwandais, qui est donc le parti qui s'oppose au génocide et qui lutte contre l'armée génocidaire. Donc je suis à ce moment-là au nord du Rwanda, pas très loin de Kigali, avec Médecins du Monde. Donc je pars en médecine humanitaire là-bas et c'est difficile pour moi de raconter ce que j'ai vécu là en tant que médecin, c'est assez lourd. En tout cas sur le plan politique, ce qui est certain, c'est que je vois là-bas, très rapidement, que la France est du côté des génocidaires. C'est-à-dire que quand on arrive au Rwanda en avril 1994, c'est presque une pensée commune, c'est presque un... Il n'y a pas de mystère possible. Tous les Rwandais savent que la France a toujours soutenu le gouvernement Habyarimana, a toujours soutenu l'armée qui commet le génocide. Donc ce qui était une espèce de pensée ou d'hypothèse à Paris est une certitude au Rwanda. Et cette certitude est malheureusement entérinée tout le long de mon activité là-bas. Quand je vois notamment ce que écrit la presse à ce moment-là, notamment le journal Le Monde, et qui refuse d'ailleurs de parler du mot génocide. Et puis, dans un second temps, l'opération Turquoise. Alors, l'opération Turquoise, lorsque moi je suis à Gaïni, au Rwanda, je sais que les Français vont venir et essayer d'arrêter les massacres, paraît-il, mais tout le monde sait, en particulier le FPR, qu'ils viennent surtout pour protéger et pour protéger leurs amis étant les tueurs. Donc voilà comment j'ai vécu ça. Et je vis cette impuissance, je vis cette terrible impuissance et cette terrible trahison. Trahison d'être une citoyenne française, moi-même du côté des résistants, pour faire une image, parce que je suis du côté du FPR, et m'apercevant avec stupéfaction que mon gouvernement est un gouvernement collaborateur du génocide.
Alors, on rappelle qu'à l'époque, le président de la République est François Mitterrand, le Premier ministre est Édouard Balladur, le ministre des Affaires étrangères est Alain Juppé, le secrétaire général de l'Élysée est Hubert Védrine, et le ministre des Armées est François Léotard. Donc j'ai bien cadré tout le monde.
Tout à fait, oui. C'est d'ailleurs très intéressant de rappeler qu'il s'agit d'un gouvernement de cohabitation. Voilà. Ceci expliquant cela.
Oui, tout à fait. Donc, Annie, tu rentres en France et tu témoignes. Et tu te rapproches de l'association Survie, qui à l'époque était présidée par mon président, décédé depuis, en 2005, Françoise-Élie Verschave. Et surtout, très vite, tu vas te faire le porte-parole des femmes, et plus particulièrement les femmes qui ont été violées par les soldats français
de l'opération
turquoise.
Alors, chronologiquement, je rentre du Rwanda, j'ai besoin d'entendre des gens qui connaître des personnes qui comprennent ce que j'ai vécu, qui partagent la même indignation, la même compréhension que moi sur le rôle de la France dans le génocide. François-Xavier Verschave m'accueille avec son intelligence et que vous connaissez,
humanité.
Et son humanité. Et donc, je trouve là une sorte de nid, un petit peu, où je peux dire ce que j'en pense. Dans un second temps, j'écris un livre qui s'appelle « Blessures d'humanitaire ». Et c'est où je raconte mon périple de médecin et mes blessures, justement, de médecin dans ce pays. Et c'est dans un second temps, en 2004, que nous apprenons, grâce à Georges Kapler, sur un documentaire qu'il fait, que non seulement, donc la France a été complice de génocide, mais d'autre part, que les soldats d'opération turquoise ont commis des viols et des tortures sur des femmes tutsies dans les camps où elles étaient censées être protégées par l'armée française. Donc, de ce fait, avec l'association Survie, nous allons au Rwanda et nous recueillons des plaintes de femmes rwandaises, de plaintes de femmes tutsies violées, torturées par l'armée française. Les plaintes sont encore en cours d'instruction. On est quand même en 2021. Il faudrait que ça s'arrête.
Alors, ton avocate est Laure Niche.
Voilà. Alors, mon avocate, c'est Laure Niche, qui est l'avocate de Survie.
Oui.
Et pour l'instant, je pense que l'instruction est en cours, mais malheureusement, les femmes, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que les femmes violées vont avoir du mal à reconnaître leurs agresseurs. Il est très difficile de reconnaître des violeurs 25 ans après. Pour deux raisons. Premièrement, les violeurs ont vieilli. Deuxièmement, les photos, on les a pas. On n'a pas le trombinoscope de l'armée
à
l'époque.
On l'avait dit, est-ce que tu n'es pas le trombinoscope ?
Voilà, il y a eu un empêchement de pouvoir avoir le trombinoscope. Donc ça ne va pas être facile. Mais je rappelle quand même que l'armée française, ce sont des plaintes contre X, mais que l'armée française est poursuivie pour crime contre l'humanité et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime contre l'humanité. Donc on est vraiment dans une description et dans un motif d'inculpation qui est extrêmement grave, extrêmement grave. Donc c'est là-dessus que l'enquête se fait.
Alors je rappelle que le professeur émérite de droit Géraud Jouffre de la Pradelle a écrit un livre qui s'appelle « Imprescriptible,
Le sous-titre, c'est « L'implication française dans le génocide Tutsi porté devant les tribunaux », publié aux Arènes, qui explique justement tout le contexte des plaintes, toutes les plaintes qui sont portées. Il y en a 33 actuellement. 34, en comptant la dernière plainte qui a été déposée en 2017 contre la Banque Nationale de Paris, la BNP. Voilà.
33, c'est un bon chiffre, il faut rappeler.
Oui, oui. Et donc, il y a une nouvelle juge au pôle qui s'occupe des plaintes. L'ancien juge est parti, il y a une nouvelle juge. Et on a appris, il y a peu, que François Graner, membre de survie, que nous avons reçu à 3 reprises dans Pas de quartier, les émissions Pas de quartier, vous pouvez les réécouter sur le site du groupe Louise Michel. On a appris que François Graner, qui bataillait depuis 5 ans pour avoir accès aux archives de l'Élysée, a eu accès à un télégramme qui donnait l'ordre à l'armée française de laisser passer les génocidaires. Donc, quel a été ton...
Alors ma réaction, elle a été double. Elle a été la satisfaction. Elle a été vraiment le bonheur. Il faut rappeler que François Graner, il a réussi à accéder aux archives par une décision du Conseil d'État. C'est quelque chose d'incroyable quand même. Le Conseil d'État, c'est quand même le juge suprême en France. C'est eux qui décident de passer outre les délais d'ouverture des archives normalement en règle en France. Voilà.
Après la mort du président.
Voilà. Et donc le Conseil d'État pense que l'affaire est suffisamment grave pour que les Français aient accès à la vérité. Donc ça, c'est un premier point qui était à la fois imprévisible et extrêmement agréable et qui reflète certainement de l'évolution actuelle du regard qu'on pose sur la France et le génocide des Tutsis. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, Graner trouve ce fameux télégramme.
Daté
du 15 juillet. Qui est un télégramme qui est intéressant mais qui ne vient en fait que conforter les pièces du puzzle précédent. Je pense que la pièce du puzzle précédente majeure, c'est que Alain Juppé a reçu à Paris le responsable du gouvernement intérimaire, responsable du génocide, voilà, pendant le génocide des Tutsis. Donc, les liens entre le gouvernement intérimaire, donc le gouvernement génocidaire, qui, je le rappelle, a été créé à l'ambassade de France à Kigali, sont anciens. On a beaucoup d'arguments ou de faits. On est dans les faits qui prouvent que le gouvernement français, le gouvernement Mitterrand-Balladur, a soutenu ce gouvernement génocidaire. Donc finalement, le télégramme de juillet est à la fois la confirmation, mais n'est que la continuation de ce copinage ou de cette relation étroite, insupportable et insupportable, le mot est le plus fort, horrible, que le gouvernement français a entretenu avec les génocidaires. Donc c'est une pièce de plus sur le puzzle. On a actuellement tellement d'arguments pour démontrer que la France a joué un rôle de complicité, de soutien. On peut même revenir à l'ONU. Oui. On peut revenir à ce qui s'est passé à l'ONU. Comment se fait-il qu'on a réussi, qu'on a maintenu au Conseil de sécurité de l'ONU pour prendre des décisions sur la mine noire ou sur l'opération turquoise, des gens qui étaient des génocidaires, qui faisaient partie du gouvernement intérimaire, qui faisaient partie des partis les plus extrémistes anti-Tutsi du Rwanda. Tout ça a été fait au vu et au su de la France, et non seulement au vu au su de la France, mais approuvé par la France. Et le mal est très profond. Donc ce télégramme qu'a trouvé Graner, comme je vous l'ai dit, est à la fois extrêmement important et est un élément de plus.
Alors nous allons faire une pause, Annie, et nous allons revenir à toi et à la plainte contre que t'intente Hubert Védrine.
Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. Les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruit sa mantelle, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi. Retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des échos. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil. M'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, aujourd'hui je reçois Annie Faure, le docteur Annie Faure, qui est poursuivi par l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine. Alors Annie, qu'est-ce qui t'amène à être poursuivi par un personnage aussi emblématique de la République, un ancien secrétaire général de l'Élysée quand même, et aussi emblématique du dossier du génocide des Tutsis au Rwanda, Hubert Védrine?
Alors, ce qui m'amène à être poursuivie en diffamation, ce sont des propos que j'ai tenus lors d'une interview le 7 avril 2019, au début de la manifestation qui est à partir du jardin du Luxembourg qui se dirigeait vers le parc de Choisy pour la commémoration du génocide des Tutsis. Donc à ce moment-là, je suis interviewée sur une question qui était en fait très particulière, qui était, parce que je suis inscrite au Parti Socialiste, on m'interrogeait sur le lien entre les socialismes et le génocide des Tutsis, c'est-à-dire, vous donner le titre tout de suite. Donc moi, à ce moment-là, j'ai dit ce qui paraissait évident, j'ai parlé de François Mitterrand, puisque François Mitterrand était président à l'époque en France au moment du génocide des Tutsis. Et donc j'ai parlé du président, j'ai parlé de l'aspect timoré, de l'absence de réaction, de prise de position claire du secrétaire du Parti Socialiste actuel et du...
Olivier Faure.
Oui. Et j'ai parlé, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement, d'Hubert Védrine, en rappelant qu'il avait été secrétaire de l'Élysée à l'époque et qu'il avait, il avait soutenu et protégé il avait fermé les yeux, soutenu la fuite des génocidaires au Zaïre. Donc, c'est sur cette phrase-là que je suis attaquée. Donc, cette phrase-là passe sur France Info. Elle passe sur France Inter le lendemain matin, ce qui fait un nombre d'auditeurs important.
Oui.
Je pense que la clé du procès contre moi est moins liée à ce que je dis, puisque ce que j'ai dit a déjà été écrit moult fois par des journalistes et des connaisseurs infiniment.
Voilà, donc Saint-Exupéry.
Voilà, donc ça a déjà été dit, mais le fait que je l'ai dit à une heure de grande écoute et qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs, de réactions, fait qu'il a intenté un procès contre moi. Donc je suis poursuivie pour atteinte à l'honneur et à la considération de d'Hubert Védrine. C'est ça, le fond. Hein. Atteinte à l'honneur, à la considération.
Tu seras relaxée.
Voilà. Donc, je pense que je serai relaxée. Je pense que moi, je n'étais que le porte-parole de ce que j'avais vu, mu aussi par le désir que j'ai depuis 24 ans que cette vérité éclate enfin sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Voilà, donc ce procès, je pense aussi, ça c'est vraiment, je le dis vraiment sur votre radio ici, que je suis attaquée par Hubert Védrine parce que je ne suis rien, parce que je suis un médecin dans mon petit coin, dans le 17e, en secteur 1. Donc je ne représente aucune institution, aucun journal, donc il a pas vraiment de risque de m'attaquer. Alors évidemment, je rappelle quand même que ce procès en diffamation touche moi en tant que complice et que l'accusé majeur, c'est France Inter. C'est toujours le support.
France Inter, depuis une semaine, boit du petit lait depuis les révélations de Mediapart sur le Télégramme, où justement les parties civiles, donc représentées par ton avocate, Laure Hénich, pour survie, et pour Éric Plouvier, maître Éric Plouvier, il ne faut pas se tromper, il s'appelle Éric Plouvier, demande à ce que la justice soit saisie de ce télégramme et qu'on rouvre des dossiers, notamment le plus emblématique d'entre eux, qui a été fermé en 2018 et qui s'apprêtait à être fermé par un non-lieu, qui est Bicécéro. Est-ce que tu pourrais expliquer à mes auditeurs en quoi Bicécéro est emblématique? C'est 3 jours pendant lesquels l'opération turquoise a laissé des Tutsis rescapés aux mains des tueurs, en toute connaissance de cause.
Alors, rappeler Bicicero, là, brutalement, je vais le faire, mais je pense que là, vous l'avez déjà très bien fait. C'est-à-dire que dans les collines de Bicicero, il y a des 50 000 réfugiés Tutsis qui sont dans les collines et qui essayent de survivre avec une résistance organisée, désespérée et sublime, vraiment sublime. Ils luttent contre la mort, ils luttent contre les Interahamwés et les forces amérindiennes qui veulent les exterminer. Ils luttent avec des cailloux, ils luttent avec des bouts de bois, ils tirent des lances, ils font tout ce qui leur tombe sous la main. C'est une lutte désespérée, vouée à l'échec. Et avec devant eux les Hutus extrémistes
lourdement armés,
qui d'un côté sont lourdement armés et veulent les tuer, d'un autre côté ne prennent aucun risque. Ça a été quand même ça le génocide, c'est-à-dire c'était du 5 contre 1 en général, c'est-à-dire donc sur ce, l'armée française est avertie de la présence de ces réfugiés, de ces rescapés. Alors, en pratique, l'histoire chronologique, c'est que l'armée française voit ces rescapés. On voit même, je crois, qui arrêtent leur voiture et qui leur disent qu'il faut les aider. Je ne me rappelle plus le nom. Je crois que c'était Christian. qui descend et qui leur explique, venez nous aider. Nous sommes dans une situation épouvantable, nous sommes tous exterminés. Les soldats qui, de l'opération turquoise, hébétés, voient l'énorme massacre qui est devant eux, demandent de s'arrêter et demandent des secours pour aider les rescapés, et ça leur est refusé. Donc ça leur est refusé, ils rentrent dans leur base, et pendant les 3 jours où les soldats français sont retournés et ont laissé les rescapés tutsis sur les collines, les massacres se sont multipliés. Donc les tutsis ont été encore plus massacrés, si tant est qu'on puisse dire encore plus massacrés. Et l'opération. Donc l'histoire, c'est que comment se fait-il que l'armée française ait attendu 3 jours avant de retourner soutenir des victimes dont il était évident qu'elles étaient les victimes, qu'il n'y avait aucune possibilité de penser qu'elles allaient se retourner contre l'armée française. Donc ces interrogations-là sont des interrogations insupportables, majeures. Et Survie avait fait une très 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 magnifique journée sur le thème de Bicicero, dans lequel des journalistes, des témoins ont été extrêmement pointu, extrêmement descriptif, extrêmement précis sur ce qui apparaît être une plus qu'une lâcheté, mais vraiment là une complicité active au génocide des Tutsis.
Alors il y a 2 livres qu'il faut avoir lus mais, pour Bicicero, c'est L'Inavouable de Patrick de Saint-Exupéry aux éditions Les Arènes et Silence turquoise de Villepian et Thierry Prugnot aux éditions Don Quichotte.
Voilà. Oui, vous avez raison de me rappeler ces livres-là, en plus, parce que j'ai vraiment, ce sont d'excellents livres. Laure de Vulpian, elle a fait un travail de magnifique. Et puis, donc, en sachant que ce qui est intéressant à dire aux auditeurs, c'est que ce sont des militaires de l'opération turquoise qui dénoncent ça. C'est-à-dire qu'on a une dénonciation de l'intérieur. Hein. Et donc, ça donne encore, si on peut dire ça, encore plus de poids à la démonstration, puisque ce sont vraiment les gens, les militaires sur le terrain qui décrivent avec effroi ce qu'eux ont fini par comprendre progressivement, c'est-à-dire qu'on les rendait complices du génocide des Tutsis.
Alors, Annie, ton avocat.
C'est Maître Comte.
Oui. Antoine Comte, qu'on ne présente pas. Je vous rappelle qu'on l'a revu il y a peu de temps sur la télévision, dans l'excellente série Les mensonges de l'histoire, dans l'épisode des écoutes de l'Élysée, où il racontait comment il avait été écouté sur ordre de la cellule et sur ordre de François Mitterrand. Donc, Maître Antoine Comte va te défendre. Alors, est-ce qu'il y a une date ?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de date, je vais le voir prochainement, donc théoriquement le procès devrait se passer dans un mois, enfin c'était un mois il y a une semaine, donc dans un mois et demi, 2 mois.
D'accord.
Voilà
donc,
comment ça peut se passer.
Donc on donnera la date et on incitera ceux qui peuvent à se déplacer pour venir te soutenir. Alors est-ce que tu veux dire d'autres choses sur le dossier rwandais en général ? Parce que Macron, en 2021, est prévu de voyager et d'aller à Kigali pour la commémoration.
Ah, c'est une bonne nouvelle. Ce serait la première fois qu'un chef d'État se déplace français. On n'en a pas eu précédemment. Il faut rappeler que beaucoup de chefs d'État d'autres pays, la Belgique et les États-Unis notamment, sont venus s'excuser au Rwanda, sont venus s'excuser de leur inertie et de leur inertie coupable, voire de leur complicité. J'attends vraiment du président de la République française, donc Macron, qu'il fasse un discours fort sous le regret de ce que la France aura fait au Rwanda. Par ailleurs, alors je veux parler de la commission Duclert. Donc la commission que Macron a lancée pour faire le point sur le rôle de la France dans la tragédie rwandaise, dans le génocide des Tutsis. On a beaucoup à attendre de cette commission, mais on a beaucoup de craintes d'être déçu pour la raison fondamentale et primitive, presque génétique, qui est que la composition de du groupe de chercheurs qui est censé s'intéresser à ça comporte des chercheurs qui ont déjà été exclus, compte tenu de leur accointance pour négationnistes, qui avaient déjà écrit des choses un peu trop laudatives, un peu trop protectrices de l'opération turquoise. Je ne me rappelle plus le nom de la chercheuse, mais voilà. Et puis qu'on a exclu d'emblée des personnes qui sont à même de connaître parfaitement l'histoire du Rwanda, c'est-à-dire Audouin Rouzeau et puis Hélène Dumas, qui sont deux historiens patentés. Et je rappelle qu'Hélène Dumas parle le kiné rwandais, donc c'est quand même, on avait une chercheuse en or qui pouvait parler le kiné rwandais, ce qui n'est absolument pas le kiné cas d'aucun autre chercheur actuellement dans la commission. Donc cette commission peut être, on va dire simplement, cette commission peut faire un flop, hein, il faut le dire très simplement, mais peut-être qu'il y aura, un petit peu comme la mission d'information parlementaire qui a eu lieu en 98, des contenus quand même et des données perles à l'intérieur de la commission qui permettront quand même à nous de pouvoir peut-être en tirer des conclusions différentes que ce qui pourrait être fait par Duclerc, probablement engoncé et coincé par l'armée française, parce qu'il faut quand même bien comprendre que c'est l'armée française qui réglera ça, enfin qui est derrière tout ça.
Alors je te rappelle, Annie, et je rappelle à nos auditeurs qui le sauraient peut-être pas, c'est que le chef d'état-major des armées a été au Rwanda en 94. Il s'appelle Monsieur Lecointre. Et c'est Macron qui l'a choisi à ce poste. Donc moi, Macron à Kigali, je ne sens pas grand-chose. Même que des catastrophes.
Est-ce qu'il viendra avec Lecointre? On ne sait pas, mais...
J'en ai bien peur.
Je crois que si Lecointre va, il va être mal reçu, je crois.
On est d'accord.
Non, il vaut mieux qu'il évite, oui. Il va emmener quelqu'un d'autre, il va amener un ministre de l'Éducation nationale, enfin quelque chose qui n'a rien à voir pour calmer le jeu.
Il vaut mieux.
Il faut rappeler que Taubira voulait y aller à un moment où Hollande...
Exact, et on l'a interdit d'y aller. On a préféré Kouchner à la place.
Et voilà. Non, Kouchner, c'était sur Sarkozy, Kouchner,
oui.
Je pense. Il est allé là? Je n'ai pas l'impression qu'il est allé...
Non, il n'y est pas allé, mais à l'époque, il y avait un arbitrage, et je crois que c'était Kouchner qui avait été... Non, c'est pas ça, je me trompe.
Non, l'histoire, c'est que Taubira devait y aller en tant que ministre de la Justice, mais qu'à l'époque, dans Jeune Afrique, était apparu quelques jours avant un article où Kagame parle de complicité active de la France. Ça avait fait un incident diplomatique très important.
Oui, il avait dit les faits sont têtus.
Voilà, les faits sont têtus, complicité active, donc du coup, ça avait hérissé les poils de tout le monde, et du coup, Taubira n'y était pas allé. Et puis, d'autre part, Kagame, à juste titre, trouvait que c'était anormal. Ça, c'est le fond, c'est la petite histoire derrière, mais qui est tout à fait compréhensible. Je trouvais que c'était quand même pas tout à fait normal d'envoyer un ministre des conventions des génocides. Ouais. C'était Hollande qui devait se déplacer.
Tout à fait.
C'est Hollande ou rien. Donc là, ce sera Macron ou rien, et je pense que Macron l'a compris.
Bon.
Mais on va voir ce qu'il dira.
Bien. Annie, merci d'être venue à notre micro pour nous expliquer et nous rappeler le contexte du génocide, parler de ta plainte contre Hubert Védrine. Je rappelle donc l'excellent documentaire où on peut voir Hubert Védrine, son rôle auprès de François Mitterrand. À l'époque, il était au courant de Mazarine et c'est même lui qui a acheté ses jouets. Ça, c'est une anecdote. Donc ça, cette anecdote est rappelée dans l'excellent documentaire « L'homme du président, l'inconnu de la République » qui dresse le portrait de tous les secrétaires généraux de l'Élysée sous la Ve République. Voilà. Merci Annie. Merci à Nicolas d'être mon technicien régulièrement. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, chers auditeurs. Et d'ici là, portez-vous bien.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calissi, ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toute Villeneuve. La rage. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, S'il vous plaît, permettez-moi, si j'ai osé, de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les buts de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve.